Salut tout le monde, vous écoutez la BLP Radio et une fois n'est pas coutume, ce soir on reçoit Lucas et Malo qui vont sortir un bouquin, La Cuve, et on en parle tout de suite avec Quentin La Technique.
BLP Radio. BLP Radio.
Alors première chose, salut, comment ça va les gars?
Bah salut, ça va très bien et toi?
Ça roule.
Salut.
Alors, d'abord, un truc un peu chaud, je vais essayer de pitcher, sauf si vous avez envie de le faire, le bouquin.
Bah vas-y, on est quand même curieux d'avoir ton pitch et on pourra ajouter des détails si tu veux.
Alors, le bouquin s'appelle La Cuve. Et justement, on est dans un monde enfermé dans une cuve où il y a deux types de personnes, en gros, qui cohabitent. Les passants, qui ont l'air de pas faire grand-chose d'autre que passer, justement, et les figures, qui, elles, par contre, ont un rôle à tenir. Et si elles dévitent ce rôle, ça a l'air compliqué pour elles. Et un truc arrive et qui a l'air assez inédit, il y a des disparitions énigmatique d'un coup qui arrive et les figures, en tout cas certaines, surtout celles qui tiennent le pouvoir, on va dire, se sentent menacées et une nouvelle figure est créée, le détective. C'est un peu ça ?
Bon, écoute, tu le fais presque mieux que nous. C'est exactement ça. C'est vrai que nous, sur la genèse, on s'est dit que ce serait intéressant de créer un paradoxe d'entrée où, en fait, comme tu l'as dit, c'est une ville qui est fermée sur elle-même, donc c'est un vrai huis clos. Et on trouvait ça intéressant de se dire qu'on allait amener un premier paradoxe dans le livre, qui est la disparition de figures dans un huis clos. Quelque chose qui, normalement, est impensable. Et la deuxième truc qu'on a essayé de créer, c'est que toutes les figures sont obligées de jouer un rôle. Et une fois qu'elles ne peuvent plus jouer ce rôle, en fait, elles vont le perdre et elles vont être envoyées dans un autre lieu qui s'appelle l'au-delà. Et le deuxième paradoxe qu'on a mis en place, c'est qu'on a créé le détective qui doit retrouver les disparus. Et ça crée un peu l'intrigue du livre, c'est que le détective, il doit retrouver les disparus, mais le jour où il va le faire, il va finir par perdre son rôle lui aussi.
Un monde tout à fait dramatique, en fait, où, comme l'a dit Lucas, il y a des personnages qui sont là pour vivre. Ils ont été créés pour faire quelque chose, mais s'ils aboutissent à cette chose-là, ils vont perdre ce qui fait d'eux leur humanité, quoi.
C'est une vraie tragédie. C'est que dès que tu as un rôle, finalement, t'es obligé de l'exercer jusqu'à ce que, finalement, ça puisse te coûter presque, finalement, la vie, quoi. En tout cas, ton rôle. Bon. Continuons, ouais. Sinon nous on va rester 10 ans sur l'explication.
Pas de problème, on va creuser après, on y reviendra. En tout cas, moi ce que j'ai aimé dans votre bouquin, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette interview, c'est que déjà on a un joli mélange des genres, je trouve. On peut avoir un petit peu d'idées de science-fiction évidemment, de polar, même des scènes assez horrifiques, un peu quand même, un peu fantastique, enfin voilà. Est-ce que c'était une volonté ou juste l'histoire vous a mené à mélanger tous ces styles? Est-ce que vous êtes même posé la question?
On s'est jamais posé la question. On a été très influencé par de nombreuses œuvres de médiums différents, comme du cinéma, de livres, ou même de bandes dessinées, etc. Et du coup, c'était, je pense, un mélange qui se fait naturellement, où les genres n'ont pas vraiment de frontières. Il y en a qui se côtoient aisément, en fait. Et du coup, non, on s'est jamais posé la question. Ça s'est fait naturellement.
Bah, moi, je vais avoir mes références et vous les vôtres. J'aimerais bien entendre les vôtres, parce que justement, moi, j'y ai vu des choses genre, par exemple, si on va chercher vers les films Bunker Palace Hotel, Delicatessen, des trucs comme ça, c'est des références de vieux, je suis au courant.
Delicatessen, complètement.
Delicatessen, on partage, ouais. C'est la référence. Mm. Et d'ailleurs, ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que à l'époque, on avait déjà commencé à écrire, et j'ai regardé Delicatessen, et je me suis dit, c'est fou, c'est exactement ce qu'on est en train d'imaginer. Après, Malo, je crois que toi, tu l'avais déjà vu, ce film-là. Donc, tu vois, même entre nous, les deux frangins, on n'avait pas les mêmes références au même moment.
On a aussi des touches de Seven, un petit peu crade, avec cette esthétique aussi papier découpé qu'on peut retrouver dans les mots. Ça crée des images en tête, etc. Mais même, on peut parler de Alien. Je sais pas, il y a des scènes qui peuvent faire penser à... On parlait d'horreur tout à l'heure. Bon, là, c'est spatial. Nous, c'est plus dans une ville, mais...
Ouais, puis il y a aussi un truc, on le remarque bien, c'est que il y a des références qui sont inconscientes. On a des lecteurs qui nous ont dit ah, ça nous fait grave penser à ce truc-là ou ce machin-là, et on leur répond mais grave, on n'a pas fait exprès, mais peut-être qu'inconsciemment le fait d'avoir, je sais pas moi, lu un manga à un moment, vu tel film, on se dit ouais, c'est clair en fait. On avait cette petite ref, et parfois c'est des trucs hyper légers, comme des fois en fait ça crève les yeux. Et tu vois, en parlant de ref, il y en a une dernière aussi qui est toute simple, mais c'est les contes pour enfants. Ouais. Et on sait, d'ailleurs, le livre en fait est quand même bon, légèrement, mais une revisite du conte en fait des trois petits cochons avec le loup. Et donc voilà, il y a aussi une sorte de référence vraiment beaucoup plus enfantine qui paraît enfantine, mais quand tu creuses, tu te dis qu'on l'a un peu transformé en côté fantastico-horrifique, si ça se dit.
Ok, je comprends mieux les masques de cochon qui arrivent. Je me posais les questions. Très bien, très bien. Ok, et alors, d'où est venue la première idée? Et pourquoi l'idée d'écrire à deux? Est-ce que vous avez l'idée à deux? Est-ce que l'un l'a présenté à l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors ça, ça pourrait durer déjà une heure rien que sur cette réponse, mais pour te la faire très courte, c'était il y a 5 ans, je dirais, en arrière. Malo était au moment où tu étais en école d'art, en tout cas, tu étais dans un projet artistique. Il vient me voir en me disant « je travaille sur un projet de masque pour l'école ». Et il me dit « autour de ce projet de masque, j'ai écrit une petite histoire, un truc qui a ni début ni fin, mais voilà, un espèce de premier jet ».
Un pitch.
Un pitch, ouais. Et en fait, il me raconte ça et je me dis « mais c'est génialissime ce truc ». C'est pas juste un bout de truc sur un carnet comme il fait d'habitude, enfin comme on fait parfois, tu vois, là je sens qu'il y a un truc. Et moi je partais au Canada pendant plusieurs mois, donc on n'allait pas beaucoup se voir à ce moment-là, et on se dit ce serait trop marrant à partir de ton pitch de se le raconter tous les deux, quoi. Un peu à la manière du cadre exquis.
Et c'est là que ça a commencé, donc une manière de garder contact, mais aussi sous la forme de jeu, quoi. Où chacun son tour, on écrivait un paragraphe, une page, peut-être deux phrases, et on s'envoyait la balle comme ça, l'un après l'autre. Et petit à petit, ça a pris du volume, mais un petit peu trop, comme truc qu'on n'avait pas prévu, quoi. Et un jour, on s'est dit, mais attends, j'arrête pas de relire cette histoire. Il y a plein de trucs qui vont pas, mais il y a des trucs qui me plaisent un petit peu. Il y a quelques idées qu'on a mises, qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on avait créé quelque chose, etc. Tu rebondis sur ce qu'avait voulu dire l'autre, etc. Et bah viens, on en fait un projet un petit peu plus sérieux. Et du coup, ce jour-là, le projet Pigs est né. Et on a vraiment débuté à structurer nos idées, à élaguer un petit peu ce qui n'allait pas, et à se dire comment on pourrait le pousser et en faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant.
Ouais, sachant que, pour revenir à ta question, j'ai même pas souvenir de ce qu'il y avait sur cette feuille que Malo m'a présentée. Je saurais même pas te dire.
Moi, je sais exactement dans quel carnet c'est, et il y a franchement rien. Il y a le dessin du masque que j'étais en train de construire, ouais. Et deux lignes. Donc, dans ce monde-là, il y a des gens qui ont mis un masque de cochon. Et il y avait le maire, il y avait peut-être même pas le nom La Cuve, mais en tout cas, c'était dans une ville à la Gotham, à la Yharnam Bloodborne, pour ceux qui auront. Enfin voilà, un truc très sombre et très sale. Et voilà, c'est parti de ça, quoi.
Ouais, en fait, il a un peu jeté un... Il a fait une étincelle et derrière, on s'est dit, allez, il faut absolument qu'on fasse un truc. Mais c'est vraiment parti d'une idée comme on en a tous les jours. Mais je pense que le fait qu'il allait avoir une distance avec le fait que je partais quelques mois au Canada, on s'est dit, on l'utilise un peu comme d'un principe, tu vois, pour aller coécrire.
C'est une bonne idée, je trouve, de réinventer la relation épistolaire, mais en fait, à travers une fiction, à travers une création, c'est joli comme histoire. Ok, mais en fait, vous avez un petit peu répondu à ma question suivante, parce que tu disais, Malo, qu'il y avait une phrase, deux phrases, un paragraphe qui était jeté par l'un et puis ensuite continué par l'autre. Je me suis dit en lisant qu'il y avait un style qui se tenait et qu'on passait pas d'un truc à l'autre en se disant « Oula, c'est marrant, d'un coup il écrit comme ça et puis d'un coup, hop, ça passe à autre chose. » Pas du tout. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se tient, qui a une forme. Est-ce que vous avez eu une méthode d'écriture après avoir fait tous ces questions-réponses et vous êtes repassé sur le texte en mode « Ok, maintenant, il faut que ce soit un tout cohérent qui ait une patte, quelque chose ?»
Alors, pour te répondre, je pense que, vu le temps qu'a pris le projet, on a tous les deux évolué et on a tous les deux appris à écrire aussi avec ce projet-là. Et en fait, je pense qu'on a pris les tics de l'un et de l'autre. Il y a un côté un petit peu fusion qui s'est opéré. Et petit à petit, on n'avait même plus besoin de faire ce travail de retravail sur le texte général pour homogénéiser. En fait, ça se faisait quasiment naturellement. Et nous, on pourrait te dire quelle phrase, quel mot est employé par qui. Mais en fait, quand tu le regardes d'un point de vue extérieur, vu qu'on a vraiment une espèce de 50-50 homogène, en fait, on ne distingue plus la différence.
Enfin, tu vois, c'est presque devenu un style entre nous, le style La Cuve, qu'on appelait Pigs, qui est dans notre code. On a appris à écrire en faisant ça. Donc on pourrait presque se dire aujourd'hui avec Malo, on a le même style d'écriture. Et on le voit, ça nous arrive d'écrire chacun de notre côté aujourd'hui. On se dit, putain, ça c'est hyper Pigs, en fait, ça me fait penser à ça. Et c'est parce qu'on s'est construit aussi sur ce style qui est le nôtre. Et c'est pour ça que je pense que, comme disait Malo, il y a un contenu homogène. C'est pour deux raisons. C'est qu'on a appris tous les deux à le faire, et surtout qu'on est repassé un nombre de fois incalculable sur le récit, ce qui fait que l'un a ajouté à l'autre, a rajouté à l'autre, etc. Et à la fin, c'est nos deux plumes ensemble, quoi.
Ok. Mais c'est marrant d'ailleurs, parce que moi, je vous ai connu un peu avant, même bien avant que vous fassiez ça. Et je me rappelle que toi, Lucas, déjà, tu écrivais, je t'ai connu en écrivant quelques textes de rap. Je sais pas si Malo, t'avais déjà écrit un peu avant, parce que je sais que t'as été dans les jeux vidéo, alors t'as peut-être écrit quelques bouts de scénario, des choses comme ça.
Non, pas tant écrit, pas de texte, mais beaucoup de petits trucs dans des carnets, mais c'est plus des notes en fait que des écrits.
Avant de continuer, les gars, si vous avez envie de nous faire écouter un petit truc qui peut-être vous a inspiré sur l'écriture, qu'est-ce que ce serait ?
Bon, on va rester dans le thème du coup. On va partir sur du Pink Floyd, l'album Animals. On part sur Pigs on the Wing. You know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. So I don't feel alone on the way to the storm. Now that I've found somewhere safe to bury my bone. Any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing.
Le bouquin, il a déjà eu un petit peu une histoire, parce qu'il sort le 21 novembre, mais il y a déjà eu une petite version qui s'appelait autrement, qui s'appelait Les Passants justement, et qui a été l'objet d'un crowdfunding, un projet de financement participatif. Et il se trouve que, entre-temps, vous aviez aussi quand même démarché des maisons, et il y en a un qui vous a dit oui, le Héron d'argent. Comment ça se passe un peu cette histoire ?
Alors écoute, ça se passe bien. Ce qui s'est passé, c'est que avec Malo, forcément, plus on y bossait sur ce truc-là, plus on se disait on a envie d'être lu par nos proches. En numéro un, on a envie que nos parents lisent notre histoire. 4 ans plus tard, on se disait, c'est le moment. Et on se disait aussi, il faut que nos potes, à qui on parle tout le temps de Les Passants, le lisent un jour. Et donc, une fois qu'on a finalement posé le stylo, on s'est dit, allez, c'est le moment, on va imprimer le livre. En fait, c'était un peu ça l'idée. Imprimer un objet, un bel objet pour nos proches. Et finalement, des proches, il y en a eu une centaine, où effectivement, on a fait un crowdfunding, mais c'était plus pour précommander finalement le livre collector. Et en parallèle, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a une histoire, qu'on aime notre histoire, pourquoi pas l'envoyer à des maisons d'édition dans l'optique d'être édité. Et alors, il se trouve qu'il y a eu un espèce d'imbroglio où finalement, au moment où notre livre pour nos proches est sorti, ben, on a eu une réponse du Héron d'argent, qu'on salue d'ailleurs aujourd'hui, qui nous a dit, écoutez les gars, ce livre, ça nous plaît. Il ne faudra pas que ça s'appelle Les Passants, il faudra que ça s'appelle La Cuve. Et donc, on en était là, on avait un livre collector pour nos proches et le livre qui sort le 21 novembre, qui s'appelle La Cuve et qui est un produit magnifique et qui a eu l'objet, qui a été aussi l'objet d'un retravail éditorial. D'ailleurs, merci à eux parce que le livre est d'autant plus bon aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Malo, mais...
Bah, t'as tout bien résumé. Pour un petit peu plus détailler, aller dans le détail sur le retravail éditorial, on a retravaillé quelques chapitres qui étaient assez clés en vérité, où dans la version Les Passants, on ouvrait en fait des portes, on posait des questions, et alors que dans la cuve, on répondait plutôt à ces questions. Et du coup, je pense que pour un livre grand public, c'est quand même plus intéressant de finir le livre avec des réponses, en ayant vraiment mieux compris l'univers et l'histoire dans laquelle on a été plongé, plutôt que de réfléchir jusqu'à la fin des temps, quoi, parce qu'on n'a pas eu la réponse. Et du coup, on a eu aussi un retravail. Ils ont fait appel à une correctrice professionnelle. Donc voilà, petite faute d'orthographe, petite manière de tourner les phrases. Et aussi, ils ont fait appel à quelqu'un pour la couverture, etc. Et tout le travail de maquette, etc., qui était super.
Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque ceux qui auront participé au projet de financement pourront quand même relire la cuve en ayant quelques surprises quand même. Ça a été mon cas, j'ai lu les passants et ensuite j'ai lu la cuve. Et j'en ai eu quand même des nouveautés, j'étais content de lire les deux. Alors, grosse question, j'avais dit qu'on creuserait tout à l'heure. Qu'est-ce que la cuve raconte de notre monde ? Moi, j'y vois beaucoup de choses, et il y a déjà eu des éléments de réponse tout à l'heure, mais moi, j'y vois une question sur le déterminisme. Chacun doit jouer un rôle, mais comme tu dis tout à l'heure, le détective, s'il remplit son rôle, qu'est-ce qu'il fait derrière ? Et à côté, repos du guerrier, machin, etc. Moi, j'y vois ce que les parents peuvent projeter sur un enfant. Et l'enfant peut-être se sentir enfermé en disant « Bon, maintenant qu'ils m'ont dit que j'étais ça, je vais essayer d'être ça. »
Alors, c'est super, ouverte. Moi j'ai presque pas envie de répondre parce que juste écouter dire ça, moi je te regarde avec des grands yeux et je suis trop content. Parce que c'est une manière aussi, je pense que t'as compris de quoi on parlait. Je peux même pas aller plus loin que ça, quoi.
Non, mais c'est vrai que t'es pas le premier à nous poser cette question. Et forcément, nous, on se l'est déjà posé des milliards de fois. Pour te répondre déjà sur un peu la genèse, on n'a pas écrit ce livre en se disant on veut une morale. On voulait pas traiter d'un sujet à l'époque où on écrivait ça. Il se trouve qu'en créant tous les concepts et un peu les règles de ce monde de la cuve, on s'est dit là, il y a des thèmes qu'on aborde. Il faut aller plus profondément, en fait, expliquer pourquoi on aborde ces thèmes à travers les personnages, les règles du monde, etc. Après, je suis un peu comme Malo. J'ai envie de te dire que si je te donne ma version. D'un coup, j'ai peur qu'en fait, ça te retire tout ce que toi, tu vois de la morale. Donc, j'ai pas envie de le faire. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que en discutant avec un lecteur, il m'a dit un truc super beau sur le livre, que je vais te donner, comme ça, c'est sa version, pas la mienne. Mais il m'a dit, vous racontez un peu une vie, le cycle d'une vie aussi. Alors, pour les lecteurs, une fois que vous lirez la cuve, vous verrez un peu, mais il y a quand même quelque chose du truc où tu nais un peu passant, tu nais sans vraiment un rôle dans une société, t'es un enfant, t'es quelqu'un qui finalement dans une société n'est pas déterminé par un rôle, une fonction. Et en fait, quand tu grandis, effectivement, on te voit un peu par le prisme de ta fonction que t'exerces dans la société. Tu vois, il n'y a qu'à voir quand tu rencontres des gens dans la rue, quand tu rencontres des gens, premier réflexe, c'est « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et généralement, la fonction que l'autre te donne, c'est un peu comme ça que tu le vois. Tu vois, j'en sais rien, moi je suis boulanger. Moi, je suis concessionnaire, je travaille dans un garage, peu importe. Et en fait, plus le temps passe, moins en fait, ton rôle a d'importance quand tu vieillis. Et en fait, à la fin, tu perds un peu ton rôle aux yeux de la société. Et il se trouve que dans le livre, quand tu perds ton rôle, il y a un symptôme, voilà, c'est un élément du livre, tu as les pupilles grises. Et finalement, voilà, c'est un peu l'espèce de cycle de la vie où au début, t'es personne, pour le dire de manière très simple, hein. En société, tu commences à devenir quelqu'un et finalement, après, la société t'oublie. Voilà, alors, c'est pas la version que nous, on a vraiment en tête, mais je trouvais ça assez beau de dire, vous avez raconté aussi la vie au travers de la société. Mais je resterai comme Malo, je te dis pas ma version.
Eh bien, vous avez bien raison. On va faire ça et vous allez me le dire hors antenne tout à l'heure, comme ça, je me sentirai privilégié.
Avec plaisir, promis.
Ça, ce sera parfait. Moi, il y a un truc que je fais, parce que j'écris un peu aussi, plein de choses. Et quand j'écris des histoires, je m'imagine soit un casting ou des traits aux personnages, aller chercher dans des actrices, des acteurs. Est-ce que c'est un truc que vous avez fait, ça, ou pas du tout ?
Alors, on n'a pas mis de visage précis avec les acteurs. Je connais cette méthode, elle est plutôt cool, mais on ne l'a pas fait, nous, parce qu'en fait, on n'en avait pas besoin, je pense, parce que nos personnages, comme l'a dit Lucas, sont définis par le rôle, donc les figures, le boucher, le maire, le détective. Les mots vont résonner au travers des gens, en fait. Et du coup, on a déjà une image de ce qu'est un détective. Du coup, au fond, le détective, même dans le livre, n'a jamais été décrit physiquement. On sait qu'il est plutôt trapu, plutôt costaud, petite barbe, etc. Mais en fait, on n'a pas ses traits du visage, la couleur de ses yeux, etc. On a la couleur de ses yeux, mais voilà. Chaque personnage n'a pas une description corporelle parce qu'on se fait l'image du patron de l'usine. Voilà. Il aura son cigare. Tout le monde le sait, il aura son cigare. Et du coup, non, on n'a pas fait ce casting parce que rien que pour nous deux, c'était déjà inscrit dans notre patrimoine d'inspiration chopé à gauche, à droite.
Bah, c'est clair que dans l'imaginaire collectif, quand je te donne le nom, le boucher dans un monde quand même assez sombre, tu vois tout de suite l'espèce de gros mec avec sa blouse et son couperet, quoi. Donc, effectivement, on a plutôt joué sur tous les codes de l'imaginaire collectif qui sont liés à ces fameuses figures. Et même entre nous, tu vois, on se faisait des fois des blagues en se disant « Ah, ce perso, c'est lui, moi je l'imagine comme ça, ouais, carrément. » Mais on n'allait pas non plus trop loin de peur de ne pas être d'accord, presque, tu vois. De se dire « C'est pas grave si on ne voit pas, j'en sais rien, le maire, c'est pas grave si on ne l'imagine pas pareil. » Peut-être que Malo, il imagine un type longiligne, super maigre, qui fume des clopes. Et peut-être que moi, au contraire, j'imagine un petit gars un peu rabelais, tu vois, qui est hyper à cran tout le temps. C'est pas très grave. Mais il y a certaines figures où forcément, t'es obligé de penser la même chose. Comme tu dis, Malo, le patron de l'usine. Alors, le patron de l'usine, c'est, voilà, c'est ce gros type avec son cigare constamment qui parle de manière très grasse. Et ça nous allait comme ça.
Ok. Non, mais c'est une bonne idée de laisser l'électrice, le lecteur, faire sa projection de chaque personnage. C'est vrai, comme ils ont un titre qui est immuable et qui est la seule chose qui les définit, c'est une bonne idée. Alors maintenant, et c'est ce que j'aimerais entendre si on me vend un livre, c'est un passage du livre. Donc je vais me lancer dans un exercice de lecture, si ça vous va, sauf si vous voulez prendre la main.
Extrêmement dur.
Non, mais à la limite, je t'en prie, j'ai trop hâte d'entendre ça.
Moi, j'ai envie d'être bercé par cette histoire.
Alors je me lance. J'ai pris un extrait pas trop loin dans le livre pour pas trop spoiler, mais on va voir. Je vais essayer de le vendre, votre bouquin. Les grilles de la prison se sont enfin tues après des heures de frissons. Dans ce climat suspendu, une flaque s'est agitée, reflétant dans ses ondes la forme d'une femme affublée d'un long manteau de plumes noires. Les pieds sur le bureau, le maton ajuste son bonnet en toussant et renfonce sa tête entre ses bras. Près de lui, la scribe dort, elle aussi, la tête penchée en avant, en proie à un mauvais rêve. Au fond de la prison, la cellule est silencieuse, mais les hommes ne dorment pas. Leurs symptômes ont empiré, le batteur a perdu sa voix, tandis que le guitariste, déjà blessé, ne peut même plus se relever, paralysé de crampes. Face à eux se tient maintenant une étrange silhouette plumée qui les observe avec mépris, insensible à leurs supplications. Les deux captifs savent qu'une semaine est passée et que le passeur viendra. D'un mouvement de cape, la femme oiseau s'en retourne vers le dallage jaunâtre en piaillant. Une dernière visite l'attend cette nuit. Pour vérifier la couleur de leurs pupilles, l'avancement des affres. Sur la lettre anonyme qu'elle tient entre ses longs doigts blancs, une adresse est griffonnée. Au fusain près d'un rôle, le fabricant de bonbons Est 0505.MDL.
Magnifique!
Trop cool!
Moi, je le connais par cœur.
Mais bien joué. J'étais dedans.
J'ai choisi un bon extrait.
Ouais, ouais, carrément. Bah, en plus, l'exercice de l'extrait, je suis même pas sûr que j'aurais réussi à en trouver un après des heures et des heures d'efforts. Il y a trop de passages qui nous plaisent, nous.
J'en avais sélectionné trois, mais celui-là, c'est celui qui est resté. Je l'ai testé devant quelques personnes. Ils m'ont dit ah, c'est celui-là qu'il faut faire. Donc voilà. Bon. Le 21 novembre. C'est la sortie officielle chez tous les bons libraires. On commande, on va voir, on va se le procurer. Est-ce qu'il y a des séances de dédicaces ou peut-être autre chose prévue, des petits événements ?
Oui, il y en a plusieurs qui sont prévus. On est très bientôt à Fontainebleau, au marché de Noël de Fontainebleau.
Ouais, le 14 décembre, si il me semble, mais je crois que c'est ça. Pour une journée où on sera sur le marché de Noël avec des bouquins pour rencontrer des futures lectrices et lecteurs. On a trop hâte. Et puis après, en librairie, il faut qu'on organise ça, mais c'est prévu. Et on a trop, trop hâte parce que tout à l'heure, on disait avec Malo que notre rêve, c'était d'être lu. Aujourd'hui, c'est d'être lu et c'est surtout de parler avec des lectrices et des lecteurs. Parce que nous, on n'est pas forcément des grands bavards de nature, mais je peux te dire qu'avec quelqu'un qui a lu le bouquin, on pourrait rester des heures. Donc on a trop hâte de rencontrer les gens.
Si on a envie d'infos sur votre bouquin, où est-ce qu'on peut aller ? Est-ce qu'on va sur le site du Héron d'Argent ? Est-ce que vous avez un site dédié au bouquin ? Des réseaux sociaux peut-être ?
Tu as effectivement tous les réseaux sociaux du Héron d'Argent pour tout ce qui est relatif à la distribution du livre, au stock, etc. Et puis même parler avec toute l'équipe de la maison d'édition qui est super sympa. Et sinon, pour Malo et moi, on n'a pas de site. On a une adresse mail. En revanche, si jamais vous lisez le bouquin et que vous vous dites « il y a plein de mystères que je n'ai pas élucidés, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de discuter avec les auteurs », nous, on est trop partants. L'adresse mail, on peut te la donner, c'est contacterlespassants@gmail.com, donc contacter EZ. Voilà, et on répondra à tous les messages, on a trop hâte. Et ça, c'est pour nous contacter avec Malo.
Ok, très bien. Et pour finir, est-ce qu'il y a un autre projet d'écriture à venir ? Est-ce que ça discute ou pas ?
Forcément que ça discute.
Carrément même.
Après, ce qui est aussi important dans un projet qui a duré si longtemps, 5 ans, surtout à nos âges, c'est immense. Parce qu'il y a 5 ans, on était beaucoup plus jeunes, on dirait. Et du coup, là, moi, je vais parler pour moi, mais j'ai un gros besoin de voir d'autres choses, de réfléchir à plein d'autres idées, à se renourrir, en fait, recultiver à côté, pour repartir en guerre contre un immense projet qui va redurer 5 ans, avec toi, bien entendu, si jamais t'es dispo, on s'appelle. Mais voilà, là, actuellement, d'autres méthodologies, d'autres façons de voir les choses, c'est aussi important.
Bah ouais, c'est clair. C'est clair que là, il nous faut un petit temps aussi de digestion. Mais on trichait déjà, parce qu'avant de finir ce bouquin, on était déjà en train de prévoir les prochains. Alors après, je vais pas te donner trop d'infos tout de suite. Il faudrait pas que je te spoil, mais ce qu'on se disait quand même, c'est que ce bouquin, il aura pas de suite. Ça, c'est sûr. Parce qu'il suffit à lui-même et que voilà, c'est l'histoire. Bon, chaque lecteur en fera sa propre analyse, mais pour nous, l'histoire est bien ainsi. Ce qui est possible de faire maintenant, c'est de raconter l'historique presque de la cuve, qu'est-ce qui se passait avant cette ère. Donc voilà, ça, pourquoi pas en faire une ou plusieurs histoires, on a déjà plein d'idées. Et après, il y a un sujet de format. C'est qu'avec Malo, on se disait, là, on a fait un roman, et on n'était pas auteur quand on a commencé ce roman. Enfin, on ne savait pas écrire du roman. On a appris. Donc on se pose la question du format demain, c'est est-ce que ça serait intéressant d'aller travailler sur de la bande dessinée ? Alors modestement, hein, sans encore une fois se dire on va devenir des pros de la BD, mais pourquoi pas s'essayer de la BD. Et après, il y a d'autres formats qui existent qui sont trop cool. T'as le jeu aussi. Franchement, bon, Malo, c'est son métier. En tout cas, voilà, il travaille dans le jeu, donc pourquoi pas. Mais t'as aussi des trucs comme le podcast. Une histoire, ça se, comme tu l'as si bien fait d'ailleurs, tu peux l'écouter aussi, on trouve ça trop bien.
Ou la musique, le théâtre, il y a aussi d'autres manières de faire soit vivre la cuve, soit faire vivre d'autres projets qui pourraient tout aussi émerger aisément.
Donc là, pareil, ça pourrait durer des heures, mais on a plein d'idées. Pour l'instant, on se recharge un peu chacun de notre côté. D'ailleurs, on travaille sur des projets perso qui nous font grave kiffer aussi. Toujours avec notre style Pigs, hein, comme je te disais. Moi, je fais relire à Malo, il me dit « Ah non, ça, c'est trop Pigs ». Je lui dis « Ouais, c'est pas faux ». Je vais essayer de singulariser un peu ma plume. Mais non, il y a plein de projets et on a encore la vie devant nous. Justement, on a hâte.
Ok, très bien. Ben, on sera heureux de retrouver tout ça. Merci les gars. C'était très sympa de vous avoir. Pour toutes les personnes qui écoutent, donc La Cuve au Héron d'Argent, allez checker ça. C'est vraiment un bon moment à passer. Et je voulais terminer en remerciant la BLP Radio et en lançant un petit appel. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la BLP Radio, c'est une radio associative qui, si tu arrives avec un grand sourire et un projet un minimum carré, t'accueille avec plaisir pour inventer de nouvelles émissions. Alors je vous conseille d'y aller et de tenter votre chance. Salut à tous.
BLP Radio. BLP.